On n'est pas complètement en place. Bien.
Messieurs, dames, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai quelques problèmes pour commencer parce que je vais peut-être plutôt parler de nous deux avant que d'aborder le sujet de ce soir. Après plus de 63 ans de mariage et autant peut-être de tentatives réciproques pour nous empoisonner l'un l'autre, vous voyez, le résultat n'est pas très probant, bien que mon épouse soit handicapée. J'ai dû rater toutes les expériences que j'ai pu tenter. De plus, Claude nous avait prévenu. Il y a là, disait-il, matière à faire plusieurs conférences. Nous n'en avons eu cure. Aussi, ne vous attendez pas à des miracles au sortir de cette salle. Vous ne pourrez vous débarrasser de qui que ce soit. Et malgré l'obscurité, je devine quand même sur certains visages beaucoup de déception. Alors, de quoi s'agit-il? Nous évoquerons au moins ce que sont les poisons les plus communs que vous pourriez éventuellement vous procurer de façon à vous aider, leurs mélanges possibles et bien sûr leurs usages. Et puis nous ne pourrons pas évidemment ne pas évoquer les grands empoisonnements qui ont émaillé l'histoire de l'Italie jusqu'à la Renaissance, voire même un petit peu au-delà.
L'usage du poison n'est que délicatesse, dosage minutieux, en conséquence trompeur, amenant parfois un effet contraire à celui espéré. Déjà, il y a 2500 ans, Hippocrate le grec, en face de Galien le romain.
Alors,
il avait noté qu'à faible dose.
Le voici, Galien à gauche. Non ? C'est bien ça. Et Hippocrate de l'autre côté. En fait, ils ne se sont pas connus.
Il avait noté qu'à faible dose, un poison pouvait devenir un remède.
Alors, beaucoup plus tard, un certain Théophrastus von Hohenheim, quel nom barbare, aura le même avis. Toute chose est un toxique et rien n'existe sans toxicité. Seul le dosage, j'ai bien l'impression que mon micro est en train de lâcher. Toute chose, disais-je, est un toxique et rien n'existe sans toxicité. Seul le dosage fait qu'une chose n'est pas un poison. Ce personnage, pas forcément très modeste, s'était fabriqué un nom bien plus connu, du grec para, qui signifie mieux que ou autant que, certains me corrigeront, mes connaissances en grec sont nulles. Et Cels, célèbre médecin latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dont on dit qu'il était le Cicéron de la médecine. Nom de ce personnage, Paracels, qui trouva moyen, tout savant qu'il était, de mourir empoisonné au cours d'une de ses propres expériences.
L'usage des poisons a dû être accidentel, parfois aux dépens de l'utilisateur.
Paracels.
À ses débuts.
Vas-y.
Et puis, petit à petit, il s'est étendu à la chasse et à la guerre. Et ce, il y a bien longtemps, c'est ce que nous révèle Roberto Saviano dans son livre Giovanni Falcone.
Quelques capsules de pavot ont été retrouvées dans les palafites, des constructions lacustres sur pilotis. En voici à l'écran, qui ne date je ne sais pas de quand, qu'on peut imaginer au bord d'un lac du nord de l'Italie, mais enfin chacun peut donner un avis différent. Ces constructions sur pilotis de l'homme de Cro-Magnon qui a peuplé la Terre il y a 30 000 ans environ. Les Sumériens ont transmis son usage aux Chaldéens et aux Assyro-Babyloniens qui l'ont introduit en Égypte. Mais Érystrate, fondateur avec Hérophile de l'école de médecine d'Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ, mettait déjà ses disciples et ses collègues médecins en garde contre l'usage fréquent de l'opium comme remède contre la douleur.
Cet opium que les Chinois ont reconnu plus de 2000 ans avant notre ère. La nature a donc offert à l'homme ses armes de survie. Un ample choix dans les plantes, parmi lesquelles les champignons ont une place toute particulière, les animaux et les minéraux. Survie pour l'homme, certes, mais aussi pour bon nombre d'animaux, afin d'échapper à d'éventuels prédateurs, mais aussi pour de plus rares végétaux, tels le manseminier, arbre bien connu des habitants des Caraïbes, se reposer à l'ombre de son feuillage suffirait à se mettre en grand danger.
Voici un manseminier. En général, à la Martinique en particulier, il y a un écriteau qui vous indique la dangerosité de l'arbre en question. Ne surtout pas s'y frotter.
Tous ces poisons n'agissent pas de la même façon. Les neurotoxiques, comme le mercure, perturbent le système nerveux. Les cytotoxiques s'attaquent au fonctionnement cellulaire, tels l'arsenic et le ricin. Les hémotoxiques, issus des venins des serpents, empêchent la coagulation sanguine. D'autres, enfin, associent les substances neurotoxiques, hémotoxiques et myotoxiques qui paralysent les muscles. Pline l'Ancien, déjà, nous renseigne sur certains de ces effets.
On rapporte encore à Hercule la plante appelée apollinaire chez les Romains, chez les Arabes altercum ou altercanjon, chez les Grecs ioskiamos, la jusquiame. Toute cause, la folie des vertiges. Cette plante a, comme le vin, la propriété de porter à la tête et de troubler l'esprit. En général, l'emploi de cette plante est, selon moi, très hasardeux. En effet, il est certain que les feuilles même dérangent l'esprit. Les anciens pensaient que les feuilles, dans du vin, chassaient la fièvre. Voici une jusquiame.
Au XIIe siècle, à l'école de médecine de Salerno,
Nicolaus Psaepositus
prenait l'usage d'une éponge soporifique pour ses opérations chirurgicales. Elle était imbibée de jusquiame, de jus de mûre et de laitue, de lierre et de mandragore, que Pline encore lui évoquait ainsi.
Leurs propriétés, il s'agit des feuilles de la mandragore, leurs propriétés nocives portent à la tête, même par la simple odeur. L'effet soporifique varie avec les forces du sujet. La dose moyenne est d'un siat. Le siat était un petit récipient, un petit vase, de très modeste dimension. On la fait boire aussi contre les serpents et avant les incisions et les piqûres pour insensibiliser. Alors, vous voyez là, à l'écran, deux représentations de cette mandragore, dont l'aspect anthropomorphe, à gauche, montre bien que cela ressemble au corps d'une femme. Avec un peu d'imagination. Et puis à droite, vous avez une représentation, une image allemande du 14e, 15e siècle, par là. Ouais. Alors, voilà un chien qui est attaché par une chaîne. On ne la voit peut-être pas forcément, je vais essayer de vous la montrer. Ce n'est pas ça l'essentiel. Elle est là, la chaîne. Ouais. Et le but pour le chien, c'est d'arracher la racine de mandragore. Mais ce que ne sait pas le pauvre chien, et il va l'apprendre à ses dépens, c'est que lorsqu'il va tirer sur la chaîne, selon la légende, bien entendu, la mandragore va crier. Et le cri est si fort que le chien va en mourir.
Cette mandragore est la quatrième composante du carré magique. Les trois autres étant le datura, ou encore
brugmansia,
la trompeta del diablo, la belladone ou cerise du diable, et la jusquiame noire, végétaux qu'utilisaient couramment les sorcières, auxquels évidemment on attribuera la plupart des empoisonnements.
À l'écran, vous avez le datura à gauche et le brugmansia à droite. Alors, l'inné, à son époque, avait classé ces deux plantes de la même manière. Elles étaient voisines. La trompette, la fleur en forme de trompette est caractéristique, peut-être moins pour le datura à gauche, mais la plante est beaucoup plus petite. Ceux qui connaissent les Caraïbes, le brugmansia est très courant là-bas et est très décoratif. Par la suite, on a séparé, d'autant que le brugmansia est beaucoup moins dangereux, voire pas du tout. Ah, c'est encore moi. Alors, oui, en effet, c'est pas commode avec un seul micro. Curieusement, toutes ces plantes appartiennent à la même famille, la famille des solanacées. Et vous connaissez tous au moins une solanacée. Et vous en mangez, pas forcément tous les jours, mais pour certains très souvent. C'est la pomme de terre. La pomme de terre est une solanacée. Eh bien, je ne vous donne qu'un conseil, faites attention, n'abusez pas des frites.
Autre plante à éviter, le vératre blanc, la ciguë, la conite, la digitale, le hou, le laurier rose, le colchique d'automne ou encore l'if, sous lequel Pline, toujours lui, déconseillait de se reposer.
L'if, affirmait-il, pourrait tuer l'imprudent, à moins que l'arbre n'ait été rendu inoffensif par un clou de cuivre planté dans son écorce. Allez savoir pourquoi.
Les chamans, utilisant toutes ces plantes hallucinogènes, les médecins usant d'anesthésiens, toujours selon des doses bien précises, pourrait rallonger notre liste sans jamais venir à son terme.
Les champignons, dont nous parlerons peu, ce qui est étrange, sont tout autant dangereux, à cause de l'imprudence des cueilleurs et des dégustateurs. Si certains peuvent être mangés crus, certains bolets, la langue de bœuf, d'autres très cuits, la morille, d'autres encore, sont à éviter. Tout le monde sait ça. Alors ceci, c'est la belladone. Bon, je n'en dirai pas plus, on l'a évoqué à l'instant. Et puis voici deux champignons que certains connaissent peut-être, reconnaissent peut-être. Ils appartiennent tous les deux à la famille des amanites. Mais il y en a un extrêmement dangereux, et il y en a un, au contraire, qui est un des meilleurs champignons qu'on puisse déguster. Alors quel est le bon, quel est le mauvais ? Ah, à gauche, c'est le mauvais. C'est l'amanite phalloïde. Chacun sait qu'il vaut mieux l'éviter. Et à droite, c'est l'amanite des Césars, qu'on appelle encore orange vrai. J'ai eu la chance de goûter à deux reprises ce champignon. pas très confiant, mais ça valait le coup.
Toutefois, les plus dangereux sont ceux qu'on ne voit pas. Les moisissures, par exemple. L'une des plus tristement célèbres est connue sous le nom de Claviceps purpurea, à savoir l'ergot du seigle. Fléau redoutable au Moyen-Âge, sous le nom de mal des ardents ou feu de Saint-Antoine. Il a encore fait des ravages au XXe siècle en France, plus précisément à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Et pire encore, il est à l'origine de la synthèse chimique du LSD en 1938.
Ne soyons pas si affirmatifs sur l'histoire de Pont-Saint-Esprit. Tout aurait été dû, en fait, à des essais réalisés par les Américains. Nous sommes en 1951. Essais de produits chimiques dont les effets étaient identiques à ceux de l'ergot du seigle. À voir. En tout cas, la CIA serait à l'origine de cet événement.
Allez, oublions les plantes, dont on dit qu'elles sont vénéneuses. Évoquons maintenant les animaux que l'on qualifie de venimeux. Mais cela n'est pas si simple. Les animaux venimeux utilisent de façon active le poison qu'ils ont élaboré dans des glandes spécialisées au moyen de crochets, de dards, d'aiguillons ou d'épines. Ils injectent à leur proie ou à leurs agresseurs leur substance toxique. Le terme vénéneux qualifie une propriété passive. Il est utilisé pour plantes et champignons. Mais certains animaux peuvent être vénéneux, ceux qui possèdent des tissus ou organes toxiques dont ils ne peuvent eux-mêmes libérer les molécules nocives. Certaines grenouilles, par exemple.
Alors, voici une. Elle ne paraît pas forcément très belle. Elle a un nom un peu bizarre. C'est la Philobates terribilis, qu'on peut trouver en Amérique du Sud, en Colombie, par exemple. Mine de rien, si vous caressez un peu trop près sa peau, avec quelques autres personnes, eh bien, vous serez 10 à pouvoir en mourir. Donc, à éviter. Ne pas caresser les grenouilles.
Parmi tous ces animaux, on évoque les serpents et le plus dangereux d'entre eux, le taipan du désert d'Australie.
Le voici. Hein? Il n'a pas l'air bien méchant quand même.
Et pour ceux qui aiment les araignées, mygales, tarentules, ces dernières bien connues en Italie, les grenouilles et les crapauds. Les insectes, un exemple, la cantharide, réduite en poudre, était un puissant aphrodisiaque, déjà utilisé dès l'Antiquité et bien plus tard par le marquis de Sade, ou encore plus près de nous, par le président Félix Faure, mort dans les circonstances que l'on sait.
Je ne résiste pas à l'occasion à vous rappeler malicieusement la parole attribuée à Clémenceau. Il voulait être César, vous connaissez la suite. J'oubliais les poissons, les méduses, restent les minéraux, arsenic, plomb, mercure, antimoine, que sais-je encore. Mais je fais un petit pas en arrière pour revenir à l'affaire de Félix Faure. En fait, il aurait absorbé deux dragées de la marque Ise, YSE, ça ne peut pas vous dire grand-chose, qui était à base de phosphure de zinc. Mais la dame qui l'attendait tardant trop, il en a pris deux, c'est-à-dire beaucoup trop. Et c'est ainsi qu'il est mort de cette pilule qui était l'ancêtre en fait du Viagra.
Sans penser à ce que l'époque moderne a pu, peut et pourra toujours fabriquer. Bon, avec tout ça, on va bien pouvoir tuer tout le monde. Et à qui le tour ? Eh bien, commençons par ce qui a pu se passer durant l'Antiquité. C'est en 65 que Dioscoride classe pour la première fois les poisons selon leurs origines végétales, animales ou minérales. Et c'est Galien qui approfondit la connaissance des poisons et contrepoisons dont vont faire bon usage ses contemporains qui n'étaient pas les premiers à agir de la sorte. Dès 331 avant Jésus-Christ, de nombreux Romains meurent brutalement, alors que leurs épouses sont épargnées. Il n'y a qu'un pas pour qu'elles soient désignées coupables, dénoncées qu'elles sont par une servante. Produits utilisés, tous d'origine végétale. Aconite, belladone, colchique, if, ciguë, jusquiam, mandragore, opium, verâtre, la liste est longue. En 211 avant Jésus-Christ, 30 sénateurs de la ville de Capoue, alliés d'Hannibal, se donnent la mort avant que les Romains ne reprennent la ville au général carthaginois. Tite Livre fait le récit de ce tragique événement.
Vibius Virius fut suivi de 27 sénateurs environ qui se mirent à table, avec lui, dans sa maison. Après avoir perdu dans l'ivresse le sentiment du malheur qui les menaçait, ils prirent tous le poison préparé, puis, se levant de table, ils se donnèrent la main et le dernier baiser, en versant des larmes sur leur sort et sur celui de leur patrie. L'excès de la nourriture et du vin retarda le moment de leur mort et affaiblit l'effet du poison. Aussi, la plupart d'entre eux languirent-ils encore toute la nuit et une partie du jour suivant.
Il s'agit d'un suicide collectif. En revanche, il y aura bien assassinat délibéré lorsque Livie, moins 58 avant Jésus-Christ et 29 après Jésus-Christ, femme d'Auguste, veut placer son fils Tibère, né d'un premier lit, sur le trône impérial. Et d'éliminer d'abord Marcellus, neveu de l'empereur, puis les deux fils de sa rivale Julie, et enfin son propre mari, l'empereur Auguste lui-même.
Alors voici la Livie en question. Cette statue se trouve au Louvre. En fait, Livie était la troisième femme d'Auguste.
Livie aurait été également l'instigatrice de l'assassinat du général Germanicus, qui eut le temps, sur son lit de mort, de désigner les coupables, Livie et son fils Tibère. Autre femme célèbre, Agrippine, qui n'hésite pas à faire appel à celle qui sera la plus célèbre empoisonneuse de son temps, Locuste, encore à ses débuts. Comme Livie, Agrippine veut porter sur le trône impérial son fils Néron, né d'un premier mariage. Premier obstacle est de taille. Son mari, Claude, l'empereur. Très diplomatiquement, elle lui fait adopter Néron, écartant de sa succession son propre jeton Britannicus.
Nous avons là et Claude et Agrippine. Ces deux statues se trouvent au Louvre. Claude n'eut pas vraiment de chance avec ses femmes, puisque sa première épouse s'appelait Messaline. Donc Messaline et Agrippine, ça fait beaucoup pour un seul homme.
Mais Claude demeure, et c'est là qu'elle fait appel à Locuste.
Alors sur l'image que voici, que voilà, on voit Locuste en mauvaise posture à gauche. Si ça veut bien marcher, voilà. Ça, c'est Locuste. Et ce personnage-là, eh bien, c'est Néron. C'est Néron qui est en train d'un peu brutaliser Locuste parce qu'elle ne réussit pas forcément du premier coup ses expériences. Le pauvre, en bas à droite, est un esclave à qui Locuste a donné quelques potions dangereuses et qui tarde un peu trop à mourir aux yeux de Néron.
Sachant Claude, grand amateur de champignons, celle-ci lui prépare un plat savoureux d'orange vraie ou amanite des Césars qu'elle a agrémenté d'une poudre d'amanite phalloïde. Claude ne s'en régale pas moins et selon la coutume de se chatouiller l'alouette pour vomir et se remettre à table. Locuste a-t-elle raté sa cible? Oh, que non! Le soir même, Claude est pris de violents vomissements. Agrippine Bonhomme fait appel à son médecin, en fait un complice, qui administre au malheureux un lavement contenant de la coloquinte, produit hautement toxique. Au matin, Claude décède. Enfin, Silanus et Narcisse, tenaces opposants, sont à leur tour éliminés. Aimeron, toujours grâce à l'efficace collaboration de Locuste, de terminer le travail, éliminer Britannicus. On aurait pu apposer sur quelques monuments romains à la grande empoisonneuse Rome reconnaissante. Mais ce ne fut pas sans mal. Tacite nous a rapporté les faits.
Depuis longtemps, on avait eu soin de ne placer auprès de ce dernier, Britannicus, que des individus pour qui rien ne fut sacré. Le premier breuvage lui fut donné par ses gouverneurs mêmes. Toutefois, ses entrailles s'en délivrèrent, soit que le poison fût trop faible, soit qu'on l'eût mitigé pour qu'il ne tuât pas sur le champ. Mais Néron, qui ne pouvait souffrir cette lenteur dans le crime, menaça vivement le tribun et ordonna le supplice de l'empoisonneuse. On raconte même qu'il la roi de coups, il s'agit de Locuste, avant qu'elle ne se remette finalement à l'ouvrage et présente un poison capable de tuer aussi vite qu'un poignard. Un chevreau à qui on a fait ingurgiter ce nouveau poison décède au bout de 5 heures. Deuxième essai, un bouc s'écroule instantanément. Néron est satisfait, il ordonne donc de passer à l'acte. C'était l'usage, explique toujours Tacite, que les fils de princes mangeassent assis avec les autres nobles de leur âge, sous les yeux de leurs parents, à une table séparée et plus frugale. Britannicus était à l'une de ces tables. Comme il ne mangeait ou ne buvait rien qui n'eût été goûté par un esclave de confiance, et qu'on ne voulait ni manquer à cette coutume, ni déceler le crime par 2 morts à la fois, voici la ruse qu'on imagina. Un breuvage, encore innocent, et goûté par l'esclave, fut servi à Britannicus. Mais la liqueur était trop chaude, et il ne put la boire. Avec de l'eau dont on la rafraîchit, on y versa le poison, qui circula si rapidement dans ses veines qu'il lui ravit en même temps la parole et la vie. Néron, à une autre table, rassura l'assemblée qui s'agitait. « C'est un événement ordinaire, dit-il, causé par l'épilepsie dont Britannicus est atteint depuis l'enfance. Peu à peu, la vie et le sentiment lui reviendront. » Après un court silence, reprend Tacite, la gaieté du festin recommença. Alors, sur cette image, nous avons une représentation de cette fin de Britannicus. Britannicus, c'est évidemment ce personnage qui est en forme mauvaise posture. Ici, on voit ses jambes. Il est déjà effondré. Et puis, il y en a un là qui feint totalement l'indifférence. C'est évidemment Néron. Quant à lui, eh bien, c'est l'esclave qui va sûrement avoir passé de mauvais moments après, qui a servi le breuvage, le premier breuvage, au pauvre Britannicus.
Les suites ne furent pas glorieuses. Le corps du défunt devait être exposé au public. Afin de cacher les taches dénonciatrices de l'empoisonnement, le cadavre fut enduit d'une sorte de plâtre qu'une malencontreuse averse fit disparaître. Nul n'osa réagir à la révélation du crime causé sans doute par de l'acide cyanhydrique que Locuste aurait obtenu par distillation de noyaux ou de fleurs de pêcher. Elle fut grandement récompensée. Elle reçut de l'empereur une impunité totale, des terres considérables.
Pardon, le voici Néron. Ouais. C'est... Ce buste serait, selon ce que j'ai pu savoir, au Palazzo Nuovo de Rome. Mais je n'ai pas pu vérifier.
Elles reçurent de l'empereur une impunité totale, des terres considérables et même l'autorisation d'initier des disciples à sa science. Galba, successeur de Néron, pas dupe, la fit mettre à mort. Et Agrippine dans tout cela, elle avait été, sans autre forme de procès, poignardée sur ordre de son propre fils en 59 après Jésus-Christ. Là, ça tombe. Hein.
Si vous voulez beaucoup mieux, reportez-vous à Racine dans son Britannicus de 1669, œuvre que Voltaire appelait la pièce des connaisseurs, ce que vous êtes à n'en pas douter.
Alors, s'outrageant, les empoisonnements sont tout aussi nombreux. La liste des produits utilisés évolue. L'aconite est employée communément. On peut y substituer les poumons d'une grenouille mêlés à l'arsenic, le plomb, le mercure ou encore l'hypomanès, dont on dit qu'il s'agissait du fruit du mansonnier déjà évoqué.
Ce mansonnier, oui, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, dont l'ombre seule, disait-on, suffisait, paraît-il, à faire périr l'imprudent qui s'y abritait. Dangereux.
Alors, tous ces mélanges étaient le plus souvent élaborés par des femmes, évidemment qualifiées de sorcières, dignes successeuses de Locustre. Pour la plupart, elles n'ont pourvu que de soigner leurs contemporains à l'aide de plantes, essentiellement. Les accidents arrivent, dont les pauvres femmes sont rendues responsables. Au Moyen-Âge, elles seront exposées à d'abominables chasses organisées par l'Église.
Sur cette image, gravure sur bois allemande du 15e siècle, je crois, on voit quels pouvaient être les genres de supplices auxquels étaient soumises ces sorcières, qui les trois quarts du temps, peut-être même plus, étaient tout à fait innocentes, leur seul but étant de soulager leurs contemporains.
À cette époque, on a recours à de nombreux antidotes. Le plus réputé portait un nom étrange. C'est un mot persan signifiant ce qui préserve du poison, le bézoar. Il s'agit d'une concrétion que l'on trouve dans l'estomac des chèvres, constituée de sels minéraux déposés autour de débris végétaux non digérés. On portait le bézoar en bague, en pendentif. On pouvait aussi le râper et consommer la poudre obtenue.
Alors voici un bézoar, évidemment transformé en véritable œuvre d'art. Celui-ci est dans un musée, je regarde et je recherche où il peut bien être en musée. Ah oui, il est dans un musée de Vienne, au nom imprononçable pour moi. Je vais essayer quand même, le Kunst-Ist-Osterrische Museum. Je sais des gens qui parlent très bien allemand ici, qui peut-être pourront me corriger. Ouais. Enfin, c'est à Vienne. Hein. Merci.
À la Renaissance, les connaissances s'accroissent. De nouveaux assemblages apparaissent, de plus en plus sophistiqués. On associe plantes tueuses, poisons d'origine animale et éléments minéraux, tels ces mélanges complexes. Mouches cantharides et arsenic ou casque de Jupiter. Aconite nappel avec cuivre et venin de crapaud, proposé par des alchimistes italiens. Ce sont ceux qui découvrent l'usage de l'arsenic, considéré jusqu'au XIXe siècle comme le roi des poisons. Corps simple, de couleur grise, c'est son dérivé, l'anhydride arsénieux, qui est utilisé par les gens mal intentionnés.
Pardon, je suis un peu perdu. Ah, on se mélange, c'est pas commun avec un seul micro.
C'est en tout cas l'ingrédient principal de la cantharella, le poison favori du pape Alexandre VI, né Rodrigo Borgia, dont il fera grand usage. Cantharella que Guillaume Apollinaire évoque en ces termes.
La substance que Borgia utilisait conjointement avec l'arsenic, mais sans le savoir, était le phosphore, un secret qui avait été divulgué aux Borgia par un moine espagnol qui connaissait aussi l'antidote spécifique ainsi qu'un antidote pour l'arsenic. On voit donc qu'ils étaient bien armés.
Apollinaire nommait cette préparation la recette Borgia. Borgia, pape, depuis le 11 août 1492, d'une cruauté et d'une perfidie inouïe, il n'a de cesse que de s'enrichir.
Alors voici ce pape, c'est une image, un tableau, dû à Cristofano dell'Altissimo, et qui se trouve à Florence, dans le corridor de Vasari, vous connaissez tous, entre les Palazzo Vecchio et Pitti. Alors j'ajoute une petite chose que j'ai dû oublier. Non, eh bien, je vous passe la main, chère mère. Le micro.
Alors Borgia va donc méthodiquement faire éliminer les cardinaux de son entourage, les plus riches dont il est l'héritier. Déjà que ses fortunes résultaient de trafic, de vol le plus souvent, rien de moral dans tout cela. C'est ainsi que le cardinal Orsini, membre d'une des plus vieilles familles de Rome, sera empoisonné. Son tort ? Avoir conspiré contre César, le fils d'Alexandre, dont les troupes mettaient l'Italie à feu et à sang. Dans sa grande mansuétude et moyennant finances, 2000 écus et de nombreux bijoux, le pape aurait autorisé la mère du cardinal à lui apporter sa nourriture alors qu'il était emprisonné. Il n'en mourut pas moins peu de temps après. Donc c'est étrange. Et Borgia ne s'en tint pas là. Il fit éliminer tous les membres de la famille et ravit ainsi tous leurs biens. Y aura-t-il une justice ? Puisqu'il mourut à son tour empoisonné, par erreur peut-être, mais quand même, et seulement 10 ans après son élection en 1503.
Une autre version plus plausible indique qu'il serait plutôt mort de la malaria qui sévissait abondamment alors à Rome.
Son fils César fut considéré comme plus grand criminel encore, c'est pas pour peu dire, bien qu'il utilisait d'autres armes que le poison. Machiavel le prit pour modèle dans Le Prince, lui qu'aucun scrupule n'arrêtait pour conquérir et conserver le pouvoir.
Alors voici ce portrait très célèbre de César Borgia, portrait d'Altobello Melone qui se trouve à l'Académie Carrara de Bergame.
Quant à sa sœur, elle fut admirée pour sa beauté. À l'ombre de ses 20 ans, un courtisan l'a décrit comme...
Ce courtisan l'a décrit comme de taille moyenne et aux formes gracieuses. Son visage est plutôt allongé, à l'image de son nez. Ses cheveux sont dorés, ses yeux n'ont pas de couleur particulière. Elle possède une grande bouche aux dents d'un blanc éclatant. Sa poitrine est remarquablement bien proportionnée. Tout son être, je suis perdu.
Respire la joie de
voilà.
Vivre et
lui. Non, mais il fallait bien que ça m'arrive. Tout son être respire la joie de vivre et l'humour. Vous la voyez ? Elle est splendide. Alors, que je vous dise où ce tableau se trouve. Il s'agit d'un tableau de Bartolomeo Veneto qui se trouve au Stade Museum de Francfort. La dame a fait du chemin.
Elle ne fut sans doute pas celle dont la réputation vient jusqu'à nous. Femme fatale, séduisante, empoisonnant ce qui échappe à ses manipulations, participant à des orgies et entretenant des relations incestueuses avec les membres de son entourage. Je crois qu'elle est plutôt la victime des machinations familiales l'incarnation du monde sulfureux de la politique pontificale de l'époque. Notre chevalier Bayard n'en doute pas.
Sur toute personne, disait-il, la bonne duchesse qui était une perle de ce monde, leur fit, aux Français, singulier recueil, et tous les jours leur faisait banquet et festin à la mode d'Italie, tant beau que merveille. Bien n'ose dire que de son temps ni de beaucoup d'avant, ne s'est point trouvée de plus triomphante princesse, car elle était belle, bonne, douce, courtoise à toutes gens. Elle parlait espagnol, grec, italien et français, quelque peu très bon latin, et composait en toutes ses langues, et n'est rien si certain que combien son mari fut sage et hardi prince, la dite dame, par sa bonne grâce, a été cause de lui avoir fait de bons et loyaux services.
Une autre italienne attire toute notre attention. Et quelle italienne ? Catherine de Médicis. Arrivée en France en 1533, sacrée en 1549, elle est suspectée d'avoir commandité plusieurs empoisonnements. Peut-être à son médecin astrologue Nostradamus que son beau-frère François duc de Bretagne, dauphin de France. Elle a commandité plusieurs crimes de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mère du futur Henri IV. Ses sympathies guenottes étaient trop évidentes. Elle a aussi éliminé son fils Charles IX, drame qu'Alexandre Dumas évoque dans son œuvre La Reine Margot. En fait, c'est le futur Henri IV qui aurait été visé. Allez savoir. Là, c'est le parfumeur de la reine, un certain René.
On n'a pas la photo de la cruche, on l'a pas. On a toujours vu presque.
Alors, excusez-moi, je commence à peiner un peu. Alors voici cette reine que tout le monde connaît. C'est un tableau qui n'est pas de Clouet, mais qui est attribué à l'école de Clouet. Et qui se trouve... Alors là, c'est un mystère, parce que j'ai trouvé trois endroits où il se trouverait. Peut-être a-t-il été copié. Alors, de préférence, je dirais qu'il est au Carnavalet, à Paris. Mais on cite parfois à certains endroits le Louvre, ce qui ne serait pas illogique, et voire même à Pau. Alors, est-ce que c'est M. Béroux qui l'a emmené lors de son déménagement récent? Je ne sais pas. Eh bien, puisque nous en sommes là, je vais vous montrer l'image suivante, où l'on verrait, on devrait voir, et la reine et Nostradamus. Alors, c'est un bien curieux document. Ce document a pour titre « Le défilé des rois ». Alors, ces rois, ils sont en haut. Voilà. Et comme vous constatez, il y en a trois qui portent la couronne et trois qui n'en ont pas pour l'instant. Nostradamus est en train, sur son dispositif à terre, d'expliquer certainement à la reine qu'on voit de dos ici. Alors, les trois rois couronnés, eh bien, sont d'abord ici Henri II, le mari de Catherine, et ses prédécesseurs, François Ier et Louis XII. Et les trois suivants, mais qui sont-ils? Eh bien, ce sont les fils de Catherine et de Henri II. Et Nostradamus a sans doute prédit que ces trois rejetons seront à leur tour rois de France, qui sera effectivement le cas. Alors, on a donc ici François II, qui sera le premier, Charles IX, et le dernier, le futur Henri III. Je n'ai aucune idée du lieu ni de l'auteur de ce document. Alors, à qui tout ? À toi ?
Alors, je ne sais plus où on en est parce que...
Alors, c'est... Elle va essayer peut-être être l'auteur de la mort de son dernier fils, de son premier fils François II. Charles IX, je l'ai déjà cité, je crois. Non ?
Oui, c'est ça.
peut-être destiné en fait.
Alors, son autre fils, François II, ça se passe ici même à Orléans, dans une chambre de l'hôtel Groslot. Selon Ambroise Paré, qui refuse de trépaner le jeune roi, c'est un valet de chambre qui aurait été le bras armé, mais armé par qui ?
Alors voici ce tableau que certains forcément connaissent, puisqu'il est dans une des salles de l'hôtel Groslot. Je ne sais pas si ça a été une chance pour nous deux, mais c'est sous ce tableau que nous avons été mariés. Et nous n'avons pas réussi, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, nos éventuels empoisonnements réciproques. Alors, sur ce tableau, nous avons évidemment le pauvre François II qui est en train de mourir, son épouse Marie-Stuart, dont la suite sera tragique également. Nous avons ici, évidemment, la reine et Ambroise Paré avec son trépan à la main, ici, dont il ne va pas faire usage. C'eût été sans doute trop dangereux. Alors, une indication. Ambroise Paré, on ne le connaît pas seulement pour cela. Il faut que je m'y retrouve parce que je suis encore perdu. Voilà, je vais y arriver. Je vous demande un petit peu de patience. C'est pas très commun. Alors, si on connaît Ambroise Paré pour toutes ses actions et son comportement incomparable de chirurgien, il nous apprend encore autre chose, ce qui concerne l'Italie en particulier. C'est lui qui ne découvre pas, mais qui parle d'une plante appelée l'Apium risus, autrement appelée Sardonia, une espèce de renoncule qui rend les hommes insensés, induisant une convulsion et une distension des nerfs tels que les lèvres se retirent, en sorte qu'il semble que le malade rit, dont est venu en proverbe « rit sardonien » pour un rit malheureux et mortel. L'ingestion de cette sardonia, renoncule toxique bien sûr, provoque en effet des contractions du visage et des lèvres qui donne l'impression que le mourant est en train de s'esclaffer d'un rire sardonique.
Eh bien, après tous ces meurtres, ça fait beaucoup pour une seule personne, mais on s'accorde maintenant pour blanchir la reine, faute de preuves tangibles. Cependant, la légende revient toujours à Nostradamus, qui aurait pu lui préparer les mortelles potions courante à l'époque, mélange d'arsenic, de plomb, de mercure ou encore de phosphore.
Voilà, Claude nous avait dit de faire assez vite, mais nous n'arrêterons pas là tout de suite quand même, car nous ne voulons pas oublier de citer celle qui a inspiré notre propos, une Italienne bien sûr, qui s'appelait Giulia Tofana, née à Palerme vers 1620, pardon. Elle n'eut qu'à marcher dans les pas de sa mère, qui s'appelait Tofania, exécutée en place publique pour avoir assassiné son mari, tout simplement. Et comment ? Par un poison devenu célèbre. Est-ce elle, la mère, ou bien la fille qui a inventé ce poison ? Mais on le connaît sous le nom d'Aqua Tofana. On va vous expliquer.
Nul ne sait non plus la composition du fameux poison arsenic, plomb et belladone, peut-être. Le composé consistait en une poudre cosmétique ou une huile religieuse connue sous le nom de manne de Saint-Nicolas de Baris, qu'on ne pouvait distinguer parmi les artifices de toilette de toute femme à l'époque. Incolore, inodore, insipide, mais toxique. L'Aqua Tofana agissait lentement avant d'entraîner la mort. Curieusement, seuls les hommes étaient atteints. À peu près 600 moururent ainsi, dont les femmes malheureuses, opprimées, bafouées, en furent débarrassés. Julia avait vendu le fameux poison.
Alors, inutile de vous dire qu'elle mourut des mains du bourreau en 1659. L'écrivaine anglaise Catherine Kemp a raconté son histoire dans son livre « L'empoisonneuse de Palerme ». Et elle fait un petit commentaire à ce sujet.
C'est sur la potence que notre histoire s'achève. Cinq femmes, les yeux bandés, le crâne tendu, vêtues de bure, tremblantes devant le gibet, avec chacune une lourde corde encore lâche au cou. Moi enfin, l'empoisonneuse de Palerme, celle par qui tout a commencé. Ma fin est écrite dans les avis de pendaison. Pourtant, je suis encore vivante. Je respire encore. J'attends encore. Pendant des années, pas un homme à Rome n'a été à l'abri. Pendant des années, j'ai préparé ma potion. Je l'ai distribuée aux femmes et aux putains de la ville. Je me suis tenue dans l'ombre, échappant à l'Inquisition et à ses yeux de faucon, à ses agents fouinant jusque dans les foyers et les bordels de la moindre ruelle. Pendant des années, j'ai assuré la protection de ma fille et de mon cercle d'empoisonneuses. Et aujourd'hui, finalement, notre chance si fragile a tourné. Le dos cassé par des estrapades, nous nous tenons debout comme cinq corbeaux noirs frémissantes. Un murmure parcourt la foule. Je m'imagine entrer en scène devant un public qui attend ma première réplique, à la chaleur des flammes des candélabres qui fait couler mes phares. Je pourrais être Arlequin qui feint d'être courbé, muet jusqu'à ce que les mots jaillissent de ma bouche. Mais je ne suis pas dans une pièce de théâtre. C'est ici que s'achève mon périple, dans la puanteur des corps hurlants, crasseux, massés sur le campo de Fiori pour nous regarder, mes sœurs et moi mourir sous le soleil éclatant de midi. Les hommes qui griffonnent des pamphlets avec un plaisir abject le font sans évoquer ma vie, mon cœur. Ils ne me connaissent pas, ils ne nous connaissent pas. Ils écrivent mon histoire sans mon assentiment, sans ma contribution. Nous sommes debout, réduites au silence. Nos voix sont étouffées par le vacarme de la ville, le grattement des plumes des écrivains publics sur le papier, le son des cloches. Des hommes qui ne nous ont jamais rencontrés vont raconter notre légende aux générations futures. Ils vont oublier que nous sommes des femmes de chair et de sang qui ont vécu et qui maintenant vont mourir à la merci de ceux qui les jugent. Des femmes sans futur, qui pourraient avoir mené leur vie selon leurs propres règles, vont périr. Nos secrets seront dévoilés dans ces pages. Pourtant, elles ne contiendront pas un mot de vérité, pas un mot écrit de notre propre main. Le temps est écoulé, la foule tangue. Le soleil inonde la place d'une lumière aveuglante. Les secondes s'égrènent. Le moment ultime approche. Les roulements de tambour reprennent. Les prières que l'on m'escorte à dire ne franchissent pas mes lèvres. La corde se tend.
Triste fin, peut-être méritée quand même. Mais la légende dit tout autre chose de la fin de cette dame Tofana. Et notre empoisonneuse serait en fait morte en 1719, étranglée dans un couvent de Naples. Elle aurait eu 99 ans. Un peu étrange à l'époque quand même. Mais, mieux encore, d'autres prétendent qu'elle faisait toujours commerce de l'Aqua Tofana lors du décès de Mozart. En 1791, bien improbable quand même. Nous vous remercions. J'ai une petite image un peu plus agréable qui représente une sorcière un peu plus moderne. Le tableau est quand même de 1913 d'un anglais qui s'appelait John William Waterhouse. Son titre, c'est Le filtre d'amour. Mais ces filtres peuvent contenir tout ce qu'on veut et voire être plus dangereux que profitable. Je vous remercie.
Je sais pas comment ça s'arrête.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Je vous recommande de lire le livre L'empoisonneuse de Palerme.
De qui ?
Vous saurez tout de...
C'est de Catherine Kemp. K-E-M-P.
Il est récent. Hein.
Oui, c'est un livre très récent.
C'est un livre très récent.
Et puis un livre sur les poisons dont nous nous sommes évidemment inspirés, d'Éric Birlouez, Histoire des poisons. Et puis nous avons puisé quelques petites choses dans un ouvrage d'une dame appelée De Castelbajac, dont j'ai oublié le prénom, livre qui concerne évidemment les poisons. Alors, pour ceux que ça intéresse, dans celui-ci, on parle également des poisons d'aujourd'hui et de la suite donnée à ce que nous avons évoqué succinctement ce soir, y compris les histoires d'exécution de certains opposants russes, par exemple, dont on a abondamment parlé. Bon, mais c'est hors sujet pour ce soir.
Une question de Jean-Étienne. Juste donner une information à propos de l'herbe de seigle. Oui. Il y a au musée de Colmar un triptyque de Granach l'Ancien, un très beau triptyque, où les personnages ont l'extrémité des membres, les pieds et les mains, crochus. On a pensé longtemps que c'était une expression de la souffrance, que le peintre donnait une expression de ce type. Et en fait, c'était l'expression du moment où l'herbe de seigle, c'est la première expression du corps lorsqu'on consomme le seigle. C'est une œuvre très intéressante sur ce sujet.
Alors, cette cité du Gard, oui, pour Saint-Esprit, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, bon, c'est un peu hors sujet, puisqu'on est loin de l'Italie, mais un pauvre boulanger a été accusé d'être l'auteur de tous ces empoisonnements, jusqu'à ce que, heureusement pour lui, la vérité éclate.
Et vous parliez de François II, alors,
oui, on dit qu'il aurait été empoisonné. On dit beaucoup de choses, mais comme mon épouse vous l'a dit, on peut affirmer très certainement que Catherine de Médicis n'est pour rien dans tous les empoisonnements qu'on a évoqués. Mais allez savoir. Il avait, oui, quelque chose qui était irrémédiable, oui.
À l'oreille. Parce qu'en Italie, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples d'empoisonnement? Et en plus, ça se passerait dans les cours, mais il y a sans doute une histoire paysanne où on réglait l'histoire de succession par l'empoisonnement.
L'usage du poison était universel. Et je dirais même qu'il l'est toujours. Madame.
Il y a une histoire fameuse des premiers puritains qui sont arrivés aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et il y a une histoire de l'herbe au seigle. Le livre s'appelle La lettre écarlate.
Ah oui, ça, oui, c'est vrai, j'ai entendu.
Là, vous parlez de la peinture, là, le filtre d'amour, mais vous dites. Le fait qu'il y ait un chat noir au pied, ça...
Ah oui, c'est équivoque. Hein. On peut interpréter le tableau comme quelque chose de merveilleux, mais aussi de très dangereux.
Oui, c'est
un peu
les gants.
Comment
ils s'appellent ? Ce qui était destiné à Henri IV.
Oui, les gants empoisonnés. Les gants,
oui, c'est
plausible. Ah, mais tous les moyens possibles d'empoisonner son prochain étaient utilisés. Hein. C'était les empoisonneurs avaient quasiment pignon sur rue. J'exagère un peu, certes.
Ce qui est intéressant, c'est l'Antiquité, là, encore.
Ah ben surtout quand il y avait des personnages comme Néron. C'était le vice porté à son paroxysme.
Et Borgia, c'est pas mal.
Ah ben Borgia, quelle famille. Pas d'autres questions auxquelles je ne pourrais pas répondre.
Un rappel, on vient de me signaler que j'avais dit la semaine prochaine, mais c'est bien le week-end qui arrive pour le week-end jeune. Donc, ça, mais ça a été affiché. Samedi 7, 15h au musée, à l'auditorium du musée, et dimanche à 18h au CAR, pour le film de Céline. Bien, on a encore un peu de temps, je ne sais pas où en est la brigade de service. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur les empoisonnements? Il y a des spécialistes peut-être.
Alors, juste une précision.
Prends le micro.
Juste une précision, je n'ai pas participé à la préparation du panettone, donc vous pourrez y aller en confiance. Ne descends pas, hein. Ne descends pas là, je t'accompagnerai.
C'est vrai que c'était un peu impressionnant par rapport à ce serpent. Je l'avais dit que ça
répondait. Les serpents sont comme les ours aux États-Unis, dans les parcs des États-Unis. On vous conseille, quand vous rencontrez un ours, écoutez bien, de lui faire peur. Alors pour les serpents, c'est pareil.
J'utilise un mot parce que les gens sont bons. Juste un mot. Je vous rappelle que c'est au rez-de-chaussée, la salle des champs, où il y aura le pot. La collation. Descendez et vous trouverez la salle des champs. On va faire quelques discussions par ici, on descend en sous.
Madame.
Il y avait des mancheniliers en Europe. Moi, je pensais que c'était une plante uniquement.
Non, les mancheniliers se trouvent dans les Antilles,
oui,
par exemple.
Mais oui. Apparemment, c'était utilisé avant.
Non, c'était pas particulièrement utilisé.
C'était pas utilisé en Europe.
Non. Madame.
C'est impressionnant.
Vous méritez bien d'avoir la parole quand même. Dites-moi tout. Qu'est-ce que je peux ?
J'ai campé dans les états et il y avait des grands corps
des ordures.
Oui. Et on avait oublié si du lait, du chocolat, autre chose. Les sources sont plus à grand important.
Vous protégez, en effet. Et les poubelles sont aménagées pour qu'ils ne puissent pas les ouvrir, normalement. Tout le monde a faim, semble-t-il.
Et là, il y a. Comment il s'appelait le russe, là, qui a été empoisonné
Oui, je vois. Hein,
mais j'en ai entendu parler d'un autre, justement.
Il y en a plein. Hein. Nous savons que les empoisonnements des plus célèbres, on les plus connus.
Ceux qu'on voit en Europe, quoi, voilà. De notre côté à nous. Hein. Ah ouais.
Dis donc, je ne vous ai pas trop empoisonné. Alors.
Pourquoi il
n'y
a pas un micro par
Internet? Il y en a un deuxième, mais il a marché 30 secondes.
Et on ne peut pas mettre des piles. Il
faut les recharger avant.
Oui, on peut tout là. Ça, c'était super. Vous avez fait dans la vie.
aurait été empoisonné.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il ne faudrait pas confondre les alchimistes, les empoisonneurs et les sorcières.
Absolument.
C'est...
Absolument.
Mais ces pauvres femmes qu'on traitait de sorcières.
Ne l'étaient absolument pas. Elles n'avaient qu'une pensée, très certes. La plupart d'entre elles, il y avait peut-être quelques exceptions. C'était de sauver leurs contemporains ou leurs contemporaines.
Voilà, hein, avec un savoir que les autres n'avaient pas.
Mais, quand, mais compte tenu des connaissances de l'époque, il y avait parfois des accidents, et évidemment, on leur mettait tout sur le dos.
Besoin d'un défoulement collectif. Ah bah,
et l'Église...
Et ça paraissait pas très catholique, voilà.
Voilà, l'Église est très coupable dans la circonstance.
Et quand on dit l'homéopathie apprennent beaucoup de choses qui peuvent être des choses très toxiques.
C'est l'homéopathie, c'est on prend un produit toxique, voilà, mais la dose est calculée pour que ce soit un traitement.
Il n'y a pas, qu'un homéopathie. Nos médicaments les plus courants,
si on les prenait,
si nous les prenons en excès,
même des anti